J'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à ceux qui nous visitent. Je vois certaines personnes que je ne connais pas, que je n'ai pas vues avant. Je me réjouis de voir les uns et les autres. Soyez vraiment accueillis ici, à l'église de la rue Sonnera. Je suis vraiment émerveillé de voir la façon dont le Seigneur conduit les choses. Dans ce temps de culte que nous avons vécu, notamment au niveau de la présidence, être axé sur la lumière. Vous allez voir que ce matin, on va parler de la lumière. On voit aussi la prière d'Eliott qui touché et qui parlait de l'impureté de nos cœurs. On va parler de l'impureté du cœur. Et maintenant, juste à l'instant, cette prière de Luc qui demande à ce que nos cœurs soient touchés par la parole. C'est aussi l'un des thèmes que l'on va aborder ce matin. Et donc, il y a environ 2 semaines, j'ai eu la joie d'être inspecté. Donc, je suis prof de maths, pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai cette immense joie, vous savez, ce moment merveilleux où on apprend qu'on va être inspecté. Et donc, en fait, c'est un rendez-vous de carrière assez classique. C'est un rendez-vous qui est programmé, où quelqu'un vient observer ce qu'on fait pendant une heure. Il se trouve que l'inspecteur n'est pas venu parce que j'ai une réputation particulière ou parce que je fais des choses absolument extraordinaires, pas du tout. Il est venu parce qu'on est arrivé à un moment de ma carrière où il est prévu qu'il vienne. Mais même si on pense qu'on fait bien son travail, même si on a de bons retours de son travail, quand on sait qu'un inspecteur vient, on a toujours une petite pointe de stress. Vous savez, un moment, on se demande ce qu'il va bien pouvoir avoir à redire sur ce que l'on fait. Il se trouve que c'est intéressant parce que dans le passage que nous allons lire ce matin, Jésus y vit quelque part un peu son inspection. Mais là, il y a de bonnes raisons pour lesquelles il est inspecté. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles il y a quelqu'un qui vient voir ce qu'il fait. Il se trouve que Jésus, c'est quelqu'un qui fait parler de lui. Il est en train de se faire un nom, il y a des gens qui le suivent. Et là, il y a des pharisiens et des théologiens, des personnes donc importantes qui se disent « On va aller voir ce qu'il raconte ce jeune homme-là. On va aller voir ce qu'il dit, on va aller voir ce qu'il fait. » Et donc, on en est là et je vous propose donc de prendre Marc chapitre 7, versets 1 à 23. Marc chapitre 7, versets 1 à 23. Et on va le lire ensemble, je vais lire dans la version Summer. Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Et les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?»« Hypocrite, leur répondit-il. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles. » inventé par des hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Puis il ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, que dites-vous? Si un homme dit à son père ou à sa mère, « La part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu », alors vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez. Et vous faites bien d'autres choses du même genre. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit, « Ainsi, vous non plus, vous ne comprenez pas? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire? De tout ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. » Et il ajouta, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, les blasphèmes, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Un beau texte, très beau texte. Comme je l'ai dit précédemment, Jésus commence à bien faire parler de lui. Notre passage se trouve dans la même section que la multiplication des pains qui a été vue la semaine dernière. C'est ce qu'on appelle la section de la fin du ministère public de Jésus en Galilée. On peut donc considérer que ce qui se passe ici est consécutif à cette multiplication des pains. Autant dire que la renommée de Jésus n'est pas usurpée. Si on vient le voir, c'est pour de bonnes raisons. Et ceux qui viennent voir Jésus sont des pharisiens, des spécialistes de la loi. C'est pas n'importe qui. Les pharisiens sont réputés pour leur attachement à la loi. Ils l'enseignent, d'ailleurs. Et ils sont aussi réputés pour leur attachement à la tradition. Et ils sont déclarés comme étant les gardiens de la tradition. Les pharisiens sont les gardiens de cette tradition dont on parle ici. Autant dire que lorsque Jésus va leur faire des reproches, cela va avoir un écho particulier pour eux. Parce qu'ils ne sont quand même pas n'importe qui. Ils enseignent la loi. Ils sont les gardiens de la tradition. Quand on parle de gardien, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'évoque l'image de quelqu'un d'assez noble, qui a un poste honorable. Et là, Jésus va leur faire des reproches. Dans un premier temps, on regardera cette histoire des mains qui doivent être propres. On verra ce qu'il y a derrière tout ça. On verra comment on peut se l'appliquer à nous-mêmes. Pour venir dans un second temps, nous parler de cette notion d'avoir un cœur propre. Des mains propres ou un cœur propre. On remarque que Marc dit que les pharisiens et les juifs en général suivent la tradition des ancêtres. On voit que la façon dont le texte est tourné, la façon dont le texte est présenté, on voit bien donc que les juifs font ce qu'ils font au niveau des traditions parce qu'ils suivent le mouvement qui est impulsé par les pharisiens. Alors qu'on se comprenne bien ce matin, il n'est pas question ici de rejeter toute forme de tradition. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, on doit bien le reconnaître, on ne se rend pas toujours compte que dans notre liturgie, dans notre façon de vivre le culte, dans les différentes choses que nous faisons, on fait certaines choses par tradition. Elle a un sens pour nous, parce qu'elle nous semble ancrée dans la parole. Mais il y a certaines de nos pratiques qui sont issues de la tradition, qu'on le veuille ou non. De façon générale, on notera d'ailleurs que Jésus ne s'oppose pas à toutes les traditions. Certaines traditions nous sont chères car elles sont issues de notre histoire, de notre parcours. Mais ce qu'il faut veiller, c'est à ce qu'elles n'entrent pas en contradiction avec la parole de Dieu. Qu'on le veuille ou non, il y aura forcément des traditions dans ce que l'on fait, même inconsciemment. Notre compréhension de certains passages bibliques aussi, la coloration qu'on met derrière certains passages bibliques est aussi, il faut bien le reconnaître, parfois issue de la tradition, héritée d'ailleurs de ceux qui nous ont précédés. L'enjeu, c'est de demander à Dieu sa sagesse pour comprendre avec justesse le texte biblique et ainsi réussir à faire la part des choses entre ce qui est une juste compréhension de la parole et qui a donc mené à une tradition que l'on pourrait vivre et ce qui est finalement uniquement une tradition humaine. Et tout cela pour dire que la tradition n'est pas forcément à rejeter. Il faut l'examiner, mais elle n'est pas forcément à rejeter. Par contre, si un enseignant vient à placer la tradition avant la parole, et que vous vous trouvez face à une contradiction flagrante entre la tradition qui vous est demandée et la parole, alors le choix, il est extrêmement vite fait. C'est la fidélité à la parole qui doit être priorisée. Mais parfois, la tradition peut avoir du bon. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de certaines choses, qui ne connaît pas certaines choses, avoir la tradition peut être une bonne chose. Donc la tradition n'est pas forcément négative, mais il faut bien l'examiner. De façon plus spécifique, ici, si Marc nous parle de la tradition des ancêtres, il faut se demander ce que c'est. La tradition des ancêtres, elle est transmise de génération en génération. Elle contenait des règles dont certaines étaient d'origine biblique, d'ailleurs, en précisant, en adaptant ou en interprétant la parole et la loi. Et d'autres parties de cette tradition étaient d'origine non biblique. Le but de cette tradition, finalement, c'était quoi ? C'était de créer une sorte de « et » autour de la loi pour éviter que le juif qui est inattentif ou mal intentionné ne transgresse la loi. Si je vous donne une image plus contemporaine, c'est un peu comme, vous savez, cette ligne qui est juste avant la bande d'arrêt d'urgence. Quand on roule dessus, blablabla, elle fait du bruit comme ça. Et bien en fait, on sait que si on passe cette ligne, on va vers la bande d'arrêt d'urgence et on va vers la glissière de sécurité. Et c'est dangereux. La tradition, c'est cette ligne. La loi, c'est la glissière de sécurité. D'accord ? Le but de la tradition, c'est vraiment de nous éviter de venir à transgresser la loi. Et donc ici, en fait, ce que se disent les personnes de l'époque, c'est simplement qu'il vaut mieux être amené à transgresser la tradition plutôt que transgresser la loi. Si à un moment on fait un pas de trop, attention, on entend le petit bruit du bord de la bande d'arrêt d'urgence. Attention, tu transgresses la tradition. Si tu continues, tu vas transgresser la loi. Le but, c'est de nous protéger de ça. Mais à force de raisonner comme ça, on finit par prendre la tradition et en faire la loi. Si tu viens à transgresser la tradition, c'est comme si tu transgressais la loi. La pureté rituelle qui est décrite par Marc se trouve dans cette tradition. Le fait de se laver les mains se trouve dans cette tradition. En fait, il n'y a pas d'obligation à se laver les mains à chaque fois que l'on prend un repas. Alors sanitairement, si. Mais en tout cas, au niveau de la loi, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, en fait, se laver les mains, c'était quelque chose qui se faisait notamment au moment des sacrifices. Et quand on regarde les prescriptions divines, il n'y a pas d'obligation à se laver les mains à chaque repas. Et pourtant, là, les pharisiens le pointent comme si c'était quelque chose qu'il faut absolument faire. Et on voit ici d'ailleurs que Marc donne une explication assez détaillée de ce rituel-là. Et cela renforce l'idée de ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que l'évangile de Marc s'adresse principalement à des païens. Si ça s'adressait à des juifs, Marc n'aurait pas eu besoin d'expliquer clairement pourquoi les pharisiens faisaient ça et demandaient ça. Et donc en fait, ça renforce cette idée que ça s'adresse à des païens. Et du coup, ça va nous parler d'autant plus, nous qui ne sommes pas d'origine juive pour la plupart d'entre nous. Il leur explique donc que c'est là le fruit d'une tradition. Ça n'est pas une loi. Et donc en fait, les pharisiens vont plus loin que la loi. En effet, quand on regarde bien, les pharisiens ont dessiné un idéal de pureté. Quelque chose qui, à leurs yeux, les met à part des autres hommes. Et leur idée, en fait, cette idée qu'ils sont à part des autres hommes, elle ne vient pas de nulle part, en fait. Elle vient d'où ? Elle vient de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament appuie sur le fait que le peuple juif de l'époque était le peuple de Dieu, choisi par Dieu, pour refléter sa gloire, sa puissance à tous. Et eux, ils finissent par se glorifier eux-mêmes d'avoir été mis à part, en oubliant qu'ils sont ce qu'ils sont par la grâce de Dieu. De même que nous, aujourd'hui, en tant que disciples de Christ, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. L'objectif de Dieu n'est pas de se choisir un peuple par discrimination, pour rejeter les autres, pas du tout. Le fait que Dieu se choisisse un peuple, c'est pour pouvoir se révéler aux autres. On a des personnages bibliques, comme Ruth, comme Rahab, qui nous rappellent avec puissance que Dieu veut se révéler à tous. Et peut-être que toi, ce matin, Dieu ne s'est pas encore révélé à toi. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton cœur où tu dis « Ah, il y a un intérêt pour tout ce qu'on me raconte ici, mais peut-être que Dieu ne s'est pas encore révélé à toi. » Et peut-être que ce matin, ça sera l'occasion de le vivre. Donc les pharisiens se créent cet idéal de pureté. Ils ne comprennent pas la loi finalement, ils en font une tradition vidée de son sens. Et en fait, cela mène même vers de la xénophobie. Et je vais m'expliquer parce que ça, c'est fort comme terme la xénophobie. En fait, les pharisiens, par le lavement des mains, cherchaient à s'éloigner des non-croyants. Ils cherchaient à s'éloigner du monde. On le voit, ils revenaient de la place publique, ils revenaient du marché, il nous est dit, et après, ils se lavaient les mains, parce qu'ils avaient été en contact avec une variété diverse de personnes, notamment des non-juifs, des personnes qui n'avaient pas les mêmes croyances qu'eux. Et pour se purifier, ils se lavaient les mains. En fait, ils se purifiaient de toutes ces personnes impures qu'ils avaient côtoyées. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre loin du monde. Par contre, Dieu nous appelle à ne pas nous y conformer. C'est Romains chapitre 12, verset 2 qui nous le dit. Et il y a là une précision fondamentale. Vivre loin du monde, c'est se refuser à tout contact avec ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est refuser de partager du temps avec eux, d'avoir des amis non chrétiens, de témoigner, de vivre avec eux. Mais si Christ est venu pour les malades et non pour les bien portants, alors comment est-ce qu'on ferait, nous, dans ce mode de vie autarcique, pour apporter le message du Sauveur à ceux qui en ont besoin? Quand j'étais jeune chrétien, il y a des choses qu'on me disait être impensables, qu'il ne fallait pas faire. S'habiller de telle ou telle façon, écouter telle ou telle musique, aller dans tel ou tel lieu. Le message que j'entendais parfois, c'était « Non, ça n'est pas la place d'un chrétien ». Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est open bar. Je ne dis pas qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Rappelons-nous ce texte qui nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mais on est appelé malgré tout à aller aussi dans les ténèbres, apporter la lumière, cette lumière dont on nous a parlé ce matin. J'éprouve réellement une immense joie à savoir que dans des festivals comme le Hellfest, il y a des chrétiens passionnés pour Jésus qui y vont pour parler de l'amour de Dieu. Et je suis vraiment content que notre Église soutienne de telles initiatives. Et d'ailleurs, quand on voit les fruits que cela porte, on voit que Dieu bénit réellement ces ministères-là. Et il y a d'autres exemples qui se font, où on va, des personnes de notre Église vont vers des personnes du dehors pour parler de l'amour de Dieu. Billy Graham a dit un jour, « Nous sommes les Bibles que le monde lit. Nous sommes les principes dont le monde a besoin. Nous sommes les sermons que le monde écoute. » Peut-être que pour certaines personnes qui sont dans notre société, ce qu'ils vont entendre de la part d'un chrétien qui sera venu les voir, ce sera la seule chose qu'ils entendront de Jésus. Est-ce qu'on ne va pas y aller parce qu'on se dit non, c'est pas ma place d'aller là-bas? Ou est-ce qu'on va s'autoriser à aller témoigner de l'amour de Christ là où il y a les ténèbres? Les pharisiens se présentaient comme ceux qui sont purs. Ils étaient séparés du reste et notamment de ceux qui ne faisaient pas partie du peuple juif. Et on voit que Jésus révèle réellement ce qu'ils sont. Est-ce que nous-mêmes, on a parfois trop tendance à se considérer comme séparés des autres? Je vais vous donner une image, je ne sais pas si elle va vous parler, en tout cas, moi, elle m'a parlé, c'est pour ça que je la partage. Une lampe posée au milieu du rayon luminaire chez IKEA. Elle va avoir un rayonnement extrêmement limité. Vous n'allez presque pas vous rendre compte qu'elle est allumée au milieu de toutes ces autres lampes allumées. Son rayonnement va être presque imperceptible. Mais une lampe branchée sur la bonne source, au milieu d'une nuit noire, brillera comme une évidence au milieu des ténèbres de notre monde chaotique. Est-ce que parfois on accepte d'être cette lumière au milieu des ténèbres? Aller dans certains lieux avec certaines personnes ne nous rend pas impurs. Par contre, si ça modifie ou si ça dénature notre compréhension de la parole de Dieu, et qu'ainsi ça change nos cœurs, alors là ça devient malsain et il faut s'en prémunir. Il ne faut pas se mettre en danger. Mais veillons à ne pas créer une haie, tout comme les pharisiens, par excès de prudence. Ce que Jésus reproche également aux pharisiens, c'est de faire ce qu'ils font non pas pour honorer Dieu, mais par orgueil, pour paraître. Ici, beaucoup de choses sont dans le paraître. Il ne faudrait surtout pas que l'on pense qu'un pharisien, un gardien de la tradition, ne fait pas correctement les choses et qu'il ne respecte pas ces fameuses traditions héritées des ancêtres. Et nous? Est-ce qu'on n'est pas comme cela parfois également? Est-ce que parfois on s'interroge sincèrement sur ce que l'on fait? Est-ce qu'on a des pratiques qui nous permettent de paraître bien aux yeux de ceux qui nous entourent? Veillons à ne pas faire pour paraître. Dieu voit les cœurs. Dieu connaît réellement nos intentions. Il sait très exactement pourquoi je fais telle ou telle chose. Avec Dieu, en fait, il n'y a pas de faux semblant. Peut-être qu'on va duper les hommes, mais on ne dupera pas Dieu. En ce qui concerne ceux qui sont autour de nous, ne prenons pas la place de Dieu. Gardons-nous bien de juger les cœurs et les intentions de ceux qui nous entourent. Ce n'est pas à nous de le faire. On n'est pas Dieu. Nous, ce que l'on doit faire, c'est veiller à nos propres cœurs. On n'est pas là pour attribuer à telle ou telle personne des intentions. On ne connaît pas leur cœur. Nous, on veille à notre propre cœur. Et chacun veille à son cœur. Et Dieu regarde les cœurs. Et chacun rendra compte pour lui-même, pas pour celui qui est à côté de lui. Ici, dans notre passage, ce n'est pas à nous de juger les pharisiens. On n'a pas à le faire. Mais il se trouve que lui, Jésus, peut le faire et le fait. Jésus juge les pharisiens. Et il dit quoi aux pharisiens? Il leur dit « hypocrites, vous êtes des hypocrites ». On le voit au verset 6. Ils respectent en fait par leur façon de faire les commandements de Dieu. Alors leurs cœurs sont éloignés du Seigneur. Et c'est pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, un avertissement de ne pas faire la même chose. On n'est pas censé respecter les commandements de Dieu pour paraître. Et derrière, nos cœurs sont éloignés de Dieu. Ça n'aurait pas de sens. Bien souvent, à la lecture de la parole, je ne sais pas pour vous, mais on est dans... Enfin, moi, j'ai un petit rituel dans mon culte personnel. Je suis bien assis dans mon fauteuil, confortablement. Je ne sais pas dans quelles conditions vous lisez la parole de Dieu, mais des fois, je suis bien assis dans mon fauteuil et on se place un peu, vous savez, derrière l'épaule de Jésus. On s'imagine, quand on lit ce texte, Jésus qui est en train de parler aux pharisiens et nous, on est derrière son épaule, vous savez. Et on regarde, ah là là, les pharisiens, ces hypocrites alors. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez tendance à vous placer derrière l'épaule de Jésus. Est-ce que parfois on réalise que peut-être en fait on n'est pas à la bonne place ? Et peut-être que parfois c'est nous qui devrions être en face de Jésus, avec Jésus qui nous dit « hypocrite ». Et c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce moi l'hypocrite ? Est-ce que parfois on accepte que ce message d'hypocrite s'adresse peut-être à nous ? On arrive à l'église, tout sourire, on se salue les uns les autres, on prend des nouvelles, on accueille les nouveaux. Puis dans nos cœurs, ou dans la voiture au retour, on commence à se dire « t'as vu comme telle ou telle personne était habillée ? T'as vu ce qu'un tel a prié ? Oh ! T'as vu les enfants de celui-ci, comment ils se comportent ? Est-ce qu'on juge, nous, parfois les autres ? On présente un visage d'amour, mais c'est l'extérieur du plat qui est propre. C'est les mains qui sont propres. Mais le cœur, lui, est sale. Que Dieu change nos cœurs. Que Dieu nous transforme à son image. Pour que nous ayons en horreur les doubles discours, l'hypocrisie et l'orgueil. Que nous puissions ne jamais paraître meilleurs que ce que nous sommes réellement. Les hypocrites, force est de le constater, c'est parfois nous. Et Jésus vient à citer un passage d'Ésaïe 29. Et pour être même plus précis, Jésus précise que c'est une prophétie d'Ésaïe. Alors pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, quand on lit ce passage en Marc, on lit Marc et finalement il se passe quoi ? Il est fait mention d'Ésaïe et on lit ce qui est dit par rapport à cette mention d'Ésaïe. Nous, pour nous, c'est un extrait. Mais pour le pharisien, ça ne se passe pas comme ça. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis « car Dieu a tant aimé le monde », il y a le reste qui défile dans votre tête là. Jean 3,16, on connaît. Et bien pour le pharisien, c'est pareil. Quand on commence à lui donner un petit bout d'Ésaïe 29, le pharisien, c'est quelqu'un qui connaît la parole, quelqu'un qui connaît la loi. Et quand on lui donne un petit bout d'Ésaïe 29, derrière, il y a tout le texte qui déroule. Lui, il a tout Ésaïe 29 en tête. Sauf qu'il a Ésaïe 29, mais avec sa propre compréhension des choses. Vous doutez bien que Ésaïe 29, ils l'ont étudié, et que derrière, ils y ont mis un sens. Ce n'est pas juste un texte parmi d'autres. Ils ont analysé le passage, ils ont une certaine compréhension de ce passage. Et là, Jésus, il vient nous dire quoi ? Il vient nous dire, je vais vous apporter un éclairage là, sur cette prophétie. Les pharisiens, eux, savent que c'est une prophétie contre une ville qui maintient la tradition des fêtes, mais qui agit mal et contre qui l'Éternel va agir. Les prophètes de cette ville ne peuvent plus comprendre les révélations, c'est ce que nous dit le texte, parce qu'ils sont aveuglés. Et Jésus va apporter un éclairage nouveau sur cette prophétie. Dire à un pharisien qu'en fait il est concerné par cette prophétie, déjà c'est un truc de fou, c'est lui dire clairement que lui qui se croit pur, qui se croit savant, qui se croit au-dessus des autres, ne comprend en fait pas les révélations du texte sacré et qu'il est aveugle. Vous vous rendez compte ? Dire aux personnes qui étaient les enseignants de la loi, les détenteurs, les gardiens de la tradition, lui dire « mais en fait, vous êtes aveugle ». C'est quelque chose de complètement dingue. Je vous propose de lire quelques versets d'Ésaïe 29. Je vais vous les afficher ici. Hop là. Quelques versets d'Ésaïe 29. Et pour que, tout comme les pharisiens, on puisse vraiment comprendre ce que Jésus, en fait, leur dit et ce que les pharisiens vont comprendre derrière. Il y a le verset 14 qui nous dit « à cause de cela, j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges, des actes extraordinaires. La sagesse des sages sera anéantie. » L'intelligence fera défaut à ses intelligents. Versets 16 à 19, « Allez-vous inverser les rôles ? Allez-vous prendre le potier pour l'argile, pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait, « Je ne suis pas ton œuvre », et que le pot affirme au potier qui l'a façonné, « Tu ne sais pas ce que tu fais ? Encore un peu de temps et le Liban sera transformé en verger, et le verger sera semblable à la forêt. En ce jour-là, les sourds même entendront les paroles du livre. » J'en suis où ? J'en suis là. « Et sortant des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Oui, grâce à l'Éternel, les humbles se réjouiront de plus en plus. Les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au Saint d'Israël. » Et pour conclure, les versets 23 et 24, « Lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux, ils me reconnaîtront pour Dieu. Ils me vénéreront comme étant le Saint de Jacob. Ils me redouteront, moi, le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement. » Et les contestataires recevront l'instruction. On se retrouve avec des pharisiens qui se retrouvent face à Jésus, qui leur cite Ésaïe 29. Et dans leur tête, ils se disent quoi ? Il y a quelqu'un qui est en train de dire « Ils me reconnaîtront comme Dieu. Ils me vénéreront comme étant le saint de Jacob. Ils me redouteront, moi, le Dieu d'Israël. » On se rend compte de l'affirmation de ce qui se passe ici ? De ce que Jésus affirme devant ses pharisiens ? Et les pharisiens, en fait, ils ne sont pas bêtes. Ils font le lien. Si Ésaïe a prophétisé sur eux, ça veut dire que tout le passage s'applique à eux. Ce passage parle de ce qui se passe pour eux en ce moment, à leur époque. Pensons à ce petit passage qui dit « Allez-vous inverser les rôles ?» Et les pharisiens qui sont venus pour faire l'inspection de Jésus. C'est chaud parce que l'inspection, c'est eux qui sont en train de la subir. Si Jésus est en train de leur dire « Vous êtes venus voir ce qui se passe, moi je vais vous expliquer ce qui se passe. » C'est pas comme ça que c'était prévu pour les pharisiens. C'est comme ça que ça se passe. Donc cela signifie aussi que Jésus doit être reconnu pour Dieu. Et que ceux dont l'esprit s'égare et qui doivent apprendre le discernement, c'est les pharisiens. Quel affront dans leur esprit. Eux, c'est les sachants. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce terme, en tout cas dans la novlangue de l'éducation nationale, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Hein. Le stylo est un outil scripteur. Le ballon est un référentiel rebondissant. Et puis, les personnes qui savent, les enseignants, sont les sachants. C'est des très beaux mots. Et donc, les pharisiens, ce sont les sachants. Ce sont ceux qui sont le plus haut placés, qui cherchent le respect et l'admiration de tous. Et ils sont en fait, c'est ce que dit Jésus, que des conducteurs aveugles, sans discernement. Et qui est-ce qui est là pour leur ouvrir les yeux ? C'est Jésus. Ils viennent pleins d'orgueil et de fierté pour cette inspection du rabbi. Mais ils se rendent compte qu'eux sont jugés. Et c'est bien parce que ce n'est pas à nous de les juger. Jésus est en train de les juger. Ils pensaient pouvoir faire la lumière sur les agissements de Jésus, mais ils sont en fait aveugles. Eux, ils ne peuvent pas faire la lumière sur les agissements de Jésus. Mais Jésus, lui, est la lumière et peut apporter cette lumière là où ils sont. Ils doivent le reconnaître pour Dieu. Et Jésus, il continue, il enfonce le clou. Il parle du corban, cette offrande à Dieu. Alors certains commentateurs parlent du corban comme de l'offrande pour le sacrifice d'un animal, mais il semblerait que le corban soit également une promesse de don qui est faite au décès, en disant, voilà, tout ça, je le remets à Dieu, dès que je décéderai, je le lègue au temple. Mais on continue à jouir de ces biens-là pendant sa vie. Et les pharisiens s'empêchaient donc de donner et de soutenir leur famille, en disant, mais en fait, ça c'est prévu que je le donne au temple après, je ne vais pas le donner à ma famille maintenant, quelque part, sinon je lèse le temple. Il faut comprendre qu'à l'époque, honorer son père et sa mère, c'est quelque chose qui a peut-être une signification un peu différente de ce que l'on pourrait voir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit à un enfant « Attention, honore ton père et ta mère », on est juste en train de dire « Ne leur manque pas de respect ». À l'époque, honore ton père et ta mère, c'était aussi prendre soin d'eux, les soutenir financièrement. À la retraite, les caisses de retraite, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque. Et c'était considéré comme beaucoup, comme l'un des commandements les plus importants. Et selon les croyances des pharisiens, on comprend que la perspective de soutenir ses parents, finalement, ça serait léser le temple, léser Dieu à leur mort, parce qu'ils donneraient des choses à leurs parents. Et en fait, cela pose plusieurs problèmes, des gros problèmes de compréhension. Il y a tout d'abord une incompréhension de celui qui est réellement le propriétaire de nos richesses terrestres. Quand on parle de rendre à Dieu par l'offrande, on consent à un sacrifice par lequel on rend à Dieu une infime partie de ce que lui nous a donné. Si vous voulez, on va évaluer juste quelques instants ce que l'on a reçu. Pensons à nos richesses matérielles, c'est vrai, mais pensons aussi à nos richesses spirituelles. Et maintenant, on va réfléchir à ce que l'on rend à Dieu par l'offrande. C'est quand même pas grand-chose. Ensuite, il y a une incompréhension du commandement de Dieu quant au soutien qu'un enfant doit apporter à ses parents. Laisser ses parents mourir de faim, être dans le dénuement, parce que l'on tire, nous, une gloire de ce que l'on a promis de transmettre à notre mort, c'est quand même vraiment détourner la parole de Dieu. C'est mal comprendre ce que Dieu veut. C'est aussi finalement un signe d'un grand orgueil, parce qu'on jouit de ce prestige durant toute notre vie. Mais bien entendu, on est assez malin pour ne rien perdre pendant notre vie. Mais oui, si je l'ai promis à ma mort, il ne faudrait pas que je vous le donne. Par contre, moi je vais continuer à en jouir pendant ma vie. Et ça sera uniquement à ma mort que ça va au temple. Là, il y a un vrai problème aussi. Et finalement, pour nous chrétiens d'aujourd'hui, cela nous interpelle aussi vis-à-vis de notre attitude face à l'engagement. Est-ce que l'on fait des choses dans notre service pour jouir d'un plus grand prestige vis-à-vis de la communauté qui nous entoure, même inconsciemment ? Et est-ce que du coup, on lèse notre famille par notre engagement? C'est une vraie question que je me suis posée. Ça peut paraître choquant parce qu'on encourage, et j'en parlerai par la suite, on encourage bien entendu les gens à servir. Mais est-ce que je lèse ma famille par l'engagement que je peux avoir? Est-ce que notre famille paye un prix qu'elle n'a pas à payer par rapport à ce que l'on donne, que ce soit notre argent, notre temps? Dieu nous demande la juste mesure des choses. Alors qu'on se comprenne bien, je ne prêche absolument pas pour dire « ne servez pas ». Ça n'a pas de sens, ça n'aurait pas de sens que je vous dise ça. Pour tout vous dire, je vais même aller plus loin, une personne qui se dit disciple de Christ et qui ne met aucun don au service de l'Église m'interroge fortement. Par contre, il faut bien comprendre ce que Dieu nous demande, c'est l'équilibre. Il y a des dons qui sont très visibles, que l'on voit clairement, il y en a qui le sont moins. L'hospitalité, parfois, c'est moins visible. C'est pourtant un don qu'on met au service de l'Église. La prière, pour les uns et les autres, c'est aussi un don qu'on met au service de l'Église. L'idée n'est pas forcément d'avoir quelque chose de visible. Mais Dieu nous demande, quoi qu'il arrive, d'être des serviteurs. Mais Dieu ne nous demande pas pour autant de sacrifier nos proches et notre famille pour le servir. Nous nous devons à nos familles, tout en présentant un équilibre. C'est-à-dire à la fois un engagement fervent qui, effectivement, souvent nous coûte à tous, sans pour autant que cela se fasse de façon irraisonnée et au détriment de notre conjoint et de nos enfants. Être un exemple vertueux d'un serviteur zélé, être un serviteur zélé qui ne néglige pas sa famille. C'est ça que Dieu nous demande. Et on arrive au cœur propre. Au verset 14, Jésus dit « Écoutez-moi bien et comprenez-moi bien ». Là, pour nous, ça doit sonner comme un klaxon, c'est un avertisseur sonore. Pop, pop. Écoutez-moi bien. Et là, tout le monde ouvre grand les oreilles. Parce que là, il y a un point central qui va être annoncé. Jésus appelle la foule, il veut que tout le monde entende. Alors c'est à la fois une façon habile de casser l'emprise que peuvent avoir les pharisiens sur le peuple par leur tradition imposée à tous, mais aussi un moyen que le plus grand nombre puisse entendre ce message si important. N'oublions pas qu'à ce moment, les pharisiens sont présents. Et ils font donc partie de la foule. En fait, quand on comprend, là, on est en train de voir qu'il y a des gens qui voient les pharisiens qui se font, tout comme les autres, interpellés pour aller écouter quelqu'un. D'habitude, on va écouter les pharisiens. C'est eux qui enseignent. Et là, Jésus est en train de dire « Écoutez-moi tous. » Moi, les pharisiens aussi, vous faites partie de la foule, allez-y, écoutez-moi. Et là, ça change les choses. C'est un message fort qui est envoyé ici. Et Jésus va parler. Et les apôtres, ils demandent une explication de texte. Pour tout vous dire, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur que les apôtres n'aient pas toujours tout compris. Parce qu'à de nombreuses reprises, ils ont dû demander des explications à Jésus. En fait, si je vous donne une image, qui bien entendu est toujours empruntée au niveau de l'école, ils sont un peu comme cet élève, vous savez, qui ose poser une question au prof. Il y a tous les autres en fond de classe qui sont là, qui soufflent de soulagement en mode « j'avais rien compris, mais je ne voulais pas demander ». Là, c'est pareil. Là, c'est les apôtres qui posent la question et nous, on est tous là en train de lire notre Bible. « Parce que je n'ai pas bien compris ». Effectivement, en fait, Jésus apporte une précision sur ce qui rentre dans le corps puis après qui est évacué. Et une compréhension qui aurait pu être faite ici, c'est simplement de dire « ok, ce n'est pas ce qu'on mange qui est impur, c'est ce qui en ressort de l'autre côté ». Et en fait, Jésus, il leur explique, non, mais on va sortir du côté organique des choses. C'est pas ça dont je veux vous parler. On a donc finalement une explication extrêmement limpide de ce que Jésus veut nous dire. Nos préoccupations doivent aller prioritairement vers ce qui nourrit notre cœur. Car ce qui nourrit finalement notre estomac ne nous rendra pas impurs. Ça peut nous faire mal au ventre, mais ça ne nous rendra pas impurs. C'est ce que notre cœur produira qui peut nous rendre impurs. Par extension, en fait, on doit veiller à nous nourrir de la pensée et des commandements de Christ plutôt que de nous nourrir principalement de choses secondaires. Est-ce que lorsqu'on lit la parole, on est vraiment dans cette attitude-là? Notre meilleur garde-fou, ce n'est pas la tradition des pharisiens. Notre meilleur garde-fou, c'est un cœur pur, une proximité constamment renouvelée avec Dieu. Une proximité qui nous permettra de discerner et de comprendre ce qui est bon pour nous, ce qui est conforme à la parole de Dieu, et aussi de pouvoir discerner ce qui ne l'est pas. Veillons sur nos pensées, veillons sur nos paroles, veillons sur nos cœurs. Ça demande quelque chose d'actif. Veillez sur nos pensées, veiller sur nos paroles et veiller sur nos cœurs. Combien de fois on a dit quelque chose et après, mince, ma langue a parlé trop vite. J'aurais dû y réfléchir. Veillons sur nos pensées. On peut tenir nos pensées en bride. On n'est plus esclave de nos pensées. Le message de Jésus est simple et se résume en une phrase. Ce qui rend impur, c'est ce qui vient du dedans, pas du dehors. Si je le dis autrement, ce qui doit être lavé, c'est le cœur, pas les mains. Et là encore, c'est un bouleversement, une pierre qui est jetée dans la mare. Toute la vie religieuse, quand on regarde bien, s'articulait autour de ce qu'il fallait faire. Les rituels de pureté, le respect des traditions, l'offrande, etc., tout ça, c'est ce qu'il fallait faire. Tout passait par le faire. Et Jésus dit, ce qui compte, c'est l'être, l'homme intérieur, le cœur. Si on fait pour être, alors on lave l'extérieur, on se lave les mains et cela n'aura pas d'incidence sur l'intérieur. La preuve en est d'ailleurs de ces pharisiens qui sont hypocrites et orgueilleux. Si on lave le cœur, si on change l'être intérieur, alors le faire produira des fruits qui sont dignes du royaume éternel. Et je suis vraiment convaincu que ce que nous vivons avec Dieu doit avoir pour finalité de nous permettre de mieux le connaître, de travailler notre proximité avec lui, d'avoir une connaissance plus aiguë de ses enseignements. Il y a de nombreux théologiens libéraux qui ont étudié la Bible de long en large. Ils ont une connaissance tout à fait pointue de ses enseignements de Christ. Et pourtant, ils ne sont pas chrétiens pour autant. Ils ont étudié la Bible comme un livre intéressant qui pourrait leur apporter des connaissances. À côté de cela, combien de personnes, peut-être peu lettrées, ont un jour décidé de découvrir réellement Christ et ce qu'il veut pour nous ? Combien de ces personnes ont été simplement bouleversées par quelques versets lus au détour d'un moment de communion dans leur culte personnel ? Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est quand je lis ma Bible, est-ce que je le lis parce que comme ça, à la fin de l'année, je pourrais dire « j'ai réussi à tenir mon engagement de lire la Bible en un an », ce qui est une bonne chose. Ça peut être un encouragement. Mais la finalité, ce n'est pas ça. La finalité, c'est de pouvoir passer la Bible en un an, quand on vous propose la Bible en un an. Le but, ce n'est pas de dire à la fin « génial, j'ai lu la Bible en un an ». Le but, c'est de pouvoir se dire chaque jour « j'ai passé du temps dans la parole de Dieu ». Parce que quelqu'un qui lirait la Bible en un an et qui a lu deux fois la moitié de la Bible, je ne suis pas sûr que ça lui apporte grand-chose au quotidien. Par contre, quelqu'un qui a lu quelques versets chaque jour, qui s'est approché de Dieu dans son culte personnel, qui s'est laissé interpeller par Dieu, qui a laissé son cœur se transformer chaque jour par la parole de Dieu, là, il y aura un effet. Et là, on aura rempli quelque chose. Je le rappelle encore une fois, je ne rejette absolument pas toute tradition, et de même, je ne rejette pas non plus la connaissance approfondie de la parole et de son étude. Mais je rejette avec vigueur l'idée que ces choses-là, que la connaissance serait une cause qui produirait par elle-même de bons fruits. Je le rejette. Ces choses-là, l'étude de la parole, la connaissance de Dieu, ce sont les conséquences d'un cœur dans lequel Christ a fait sa demeure. Un cœur pur, un cœur qui est transformé par Christ, un cœur qui va produire un fruit de qualité. Alors qu'un cœur impur, mauvais, abandonné au péché, c'est cela qui souille. C'est cela qui produira ce dont Jésus nous parle dans ce texte. Les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Et nous, on connaît nos cœurs. Et Dieu connaît nos cœurs. Laissons Dieu nous transformer, nous purifier, changer nos cœurs de pierre par un cœur de chair. Vivons réellement cette sanctification qui est offerte par Dieu. Je trouve très intéressant cette petite explication de Marc. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. C'est intéressant parce que, effectivement, ça nous donne un éclairage sur ce que Pierre va vivre plus tard. Mais Marc nous donne aussi une explication sur le changement majeur qui s'opère avec le salut en Jésus-Christ. Ce qui avant était impur peut devenir pur. La mort de Jésus, en fait, bénéficie à toute la création. Elle ôte l'impureté. La mort de Jésus ôte le péché. Mais pour cela, il faut que cela touche le cœur. Aujourd'hui encore, la question se pose à nous. Est-ce que je souhaite que tout le monde puisse admirer mes mains propres ? Ou alors est-ce que je souhaite que Jésus change mon cœur pour y faire sa demeure ? Est-ce que je veux que tout le monde voie des belles mains bien propres et que l'on m'admire pour cela ? Ou est-ce que je veux que les autres voient Jésus à travers moi? Parce que par mon comportement, je montre réellement qui est Jésus. Je finirai et je conclurai simplement avec cette citation de Charles Spurgeon, que je trouve très belle. « Soyez saints, car Christ est saint. Ne souillez pas ce saint nom avec lequel vous êtes nommés. Que votre vie de famille, votre vie personnelle, votre vie professionnelle soit aussi sainte que Christ, votre Seigneur, voudrait qu'elle le soit. Les saints seront-ils des imposteurs, alors que les pécheurs sont si réels ?» Merci pour votre attention.